Pour les nouveaux et pour les anciens. Alors si vous voulez bien, nous allons nous remettre dans ce que représente la philosophie première. Vous n'entendez pas? Il n'y a pas de siège, alors je suis obligé de vous tenir debout. Mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est parce que si vous entendez mal, c'est toujours gênant. Vous entendez vraiment pas très bien? Est-ce que vous entendez? Ah bon, ça va alors. Il ne faut pas exagérer alors. Ceux qui ont des oreilles dures n'ont qu'à se mettre ici devant, c'est tout. Hein, ça? Merci. Il y a de la place. Nous allons essayer ensemble de reprendre et de continuer ce problème de la philosophie première. Avec ce que ça représente comme difficulté dans notre monde d'aujourd'hui, il faut bien voir que ce n'est pas commode de redécouvrir et de découvrir chacun pour nous ce que représente ce problème de la philosophie première, c'est-à-dire ce qu'on a appelé d'une manière traditionnelle métaphysique, mais que je crois qu'il vaut mieux dire aujourd'hui philosophie première. À cause de la sensibilité des gens par rapport à la métaphysique. Puisque, selon Heidegger, il y a eu un enterrement de première classe de la métaphysique. Cet enterrement de première classe, c'est pas la peine de ressusciter les morts. Il vaut mieux tout simplement essayer de reprendre le problème initial de la philosophie première, puisque le mot métaphysique n'a été qu'attribué après coup, et il a été un peu attribué maladroitement. C'est très vrai, le mot métaphysique est un peu maladroit. Après la physique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Tandis que philosophie première veut dire quelque chose. Philosophie première montre qu'on est en philosophie. Vous voyez, c'est pas métaphysique. On est en philosophie. Si on est en philosophie, c'est une recherche de l'homme. Et c'est si la philosophie première, ça veut dire une philosophie qui est ultime, qui est dernière dans la démarche philosophique. Et je crois qu'on a avantage à prendre ce terme aujourd'hui. Vous voyez, le mot ontologie, j'avoue que je ne l'aime pas non plus, parce qu'il est lié à tout un aspect très particulier, où de fait, la métaphysique à ce moment-là n'est plus du tout la véritable métaphysique. Alors laissons à ceux qui aiment mieux dire ontologie. Et nous mettons philosophie première, même si officiellement on laisse métaphysique. Hein. Vous voyez, parce que ce n'est pas toujours commode, hein, de les titres. Mais c'est important quand même, il y a des modalités différentes. Il faut essayer de comprendre ce que représente, dans la sensibilité différente, la signification philosophie première, métaphysique, ontologie. Comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi, de fait, il y a eu ces diversifications. Bon, philosophie première, c'est Aristote qui en est le père. C'est pas Platon. Platon a dit philosophie. Il n'a pas dit philosophie première parce que pour lui, il n'y avait qu'une seule philosophie qui était, de fait, une contemplation à l'égard des formes idéales, à l'égard de la bonté première. Pour Platon, la philosophie est contemplative, tout court. La philosophie ne s'occupe pas de l'homme, mais de la contemplation de Dieu. Au fond, la philosophie est tout de suite théologie. On peut dire que chez Platon, la philosophie ne peut pas se comprendre en dehors d'une théologie. Elle est théologie, immédiatement. Il n'y a pas de philosophie proprement intermédiaire entre la contemplation et la recherche. Il n'y a rien. Donc, pour Platon, le mot philosophie existe, mais il est identifié à théologie, il est identifié à contemplation. Aristote, face à Platon, va laisser la place d'une recherche. C'est très important de comprendre cela. Il va laisser la place d'une recherche avant d'aboutir à la contemplation. Avant d'aboutir vraiment au terme, il met tout un espace et il essaie de comprendre le point de départ de la philosophie, de la démarche philosophique. Le point de départ de la démarche philosophique, je crois, pour Aristote, est d'une certaine manière double. Il y a un premier point de départ qui est très proche de celui de Socrate. Aristote se considère comme le petit-fils de Socrate, et donc plus proche de Socrate que son fils. Puisque le fils de Socrate, c'est Platon, et que lui, d'une certaine manière, est aussi le fils de Platon, il est donc le petit-fils de Socrate. Et il se considère comme plus proche de Socrate que Platon. Autrement dit, il respecte le point de départ de la philosophie de Socrate, « Connais-toi toi-même », qui est une philosophie morale. Je crois que pour Aristote, il y a un point de départ philosophique qui est la recherche du bonheur, qui est un vrai point de départ. L'éthique, la philosophie morale, la philosophie pratique. La philosophie pratique pour Aristote est vraiment un premier enracinement dans la philosophie. Mais il y a un autre point de départ, une autre source, qui est la philosophie spéculative, dite contemplative. Oui. La philosophie pratique n'est pas contemplative, d'une certaine manière. Elle est ordonnée à l'action. Elle est ordonnée à la praxis, au sens aristotélicien. Pas au sens moderne, mais au sens aristotélicien. Elle est ordonnée à la praxis, elle est ordonnée à l'action artistique, à l'œuvre, et elle est ordonnée au bonheur de l'homme. Elle est ordonnée au bien commun. Vous voyez, les trois parties de la philosophie, les trois premières parties de la philosophie s'enracinent dans l'activité de l'homme ordonnée aux trois fins de l'homme. Il y a trois finalités. Il y a une finalité de l'œuvre, il y a une finalité du bonheur, et il y a une finalité au niveau communautaire. Puisqu'il y a de fait trois biens. Le bien de l'œuvre, le bien tout court et le bien commun. C'est important de voir qu'au fond, ces trois premières parties de la philosophie sont tout de suite axées vers la finalité. Et elles se diversifient selon les trois finalités possibles. De fait, on verra qu'il y en a même une quatrième. Mais au moins, au point de départ, il y en a trois. Il y a trois fins qu'on ne peut pas discuter, qui nous sont données quasi immédiatement, que tout homme peut découvrir. La finalité de l'artiste, réaliser une œuvre. La finalité du bonheur, qui se nourra dans l'amour d'amitié. Et la finalité du bien commun. Trois biens. Trois biens de caractère très différent du reste, les uns des autres, puisque le bien de l'œuvre est évidemment très limité, mais c'est quand même un bien. C'est un bien, c'est une œuvre qu'on réalise, et donc c'est une fin. Le bien du bonheur, il est intérieur à notre activité volontaire, c'est toute la découverte du volontaire. C'est ça le point de vue moral, découvrir ce que c'est que le volontaire, dans le grand sens, hein, pas volontaire dans le sens cartésien ou dans le sens kantien, mais volontaire dans le sens profond aristotélicien, c'est-à-dire l'intelligence qui est l'homme qui est capable de s'ordonner lui-même vers ce qui est son bonheur, capable de prendre en main sa vie. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui, quelqu'un qui est capable de prendre en main sa vie et qui sait qui n'est pas dépendant de la boïra. Il n'est pas dépendant de ce que représente être né sous telle ou telle planète, parce que ce n'est pas ça qui me donne le bonheur. Le bonheur, c'est moi-même qui le réalise. Je suis capable de découvrir en moi mon bonheur. Et je dois le découvrir. Et puis alors, comme de fait je suis lié à d'autres hommes, je ne suis pas seul sur l'univers, il y a tout le phénomène de la communauté. Alors, autant que possible, quand on vit dans une communauté, il vaut mieux s'ordonner pour ne pas être en rivalité, Et donc, il vaut mieux coopérer et découvrir ce que c'est que le bien commun. Alors, on découvre un autre bien qui est au niveau du bien commun. Vous voyez, c'est important de saisir que la philosophie pratique, pour Aristote, est première. Elle est première. Elle ne sera parfaitement réalisée que grâce à la philosophie spéculative, mais elle est première. Et je crois qu'il faut rétablir un peu ce schème qui a été complètement perdu. On a complètement perdu cette attitude-là, parce qu'on a de fait le schème scolastique, et le schème scolastique, vous savez bien, c'est la connaissance spéculative qui apparaît comme première, ce qui est très faux. Je ne suis pas d'abord au niveau spéculatif, je suis d'abord au niveau pratique, c'est bien évident. Alors la connaissance spéculative, quand on la met en premier lieu, il faut voir ensuite comment va naître la connaissance pratique. Alors on dit que la connaissance pratique, c'est l'application des principes spéculatifs au domaine pratique. C'est ce que disait le bon père Garrigou-Lagrange, hein, qui est le dernier des grands scolastiques. Alors il disait ça encore, il disait que c'est l'application des principes spéculatifs au domaine pratique. Et alors il y avait une faute merveilleuse dans Jean de Saint-Thomas où il expliquait que la connaissance spéculative devenait pratique. Alors à la place de extinctionner, il y avait extinctionner à la place de extinctionner. Alors on disait donc les principes sont appliqués aux pratiques. Alors à la place de dire appliquer, il fallait que les principes s'éteignent. Les principes spéculatifs en s'éteignant deviennent pratiques. C'est très très joli, ça fait partie de ces larmes de la veuve, n'est-ce pas, qui tombent juste au bon moment pour qu'il y ait une faute bien là, qui est le hasard. Mais c'est montre bien qu'il faut découvrir les deux sources de la philosophie. Une source pratique qui reste toujours pour nous une source. Et on en a besoin. Il ne faut pas entrer trop vite dans le point de vue spéculatif. Si on entre trop vite dans le point de vue spéculatif, on perd pédale. On n'a plus cet enracinement profond qui représente la connaissance artistique, la connaissance morale et la connaissance politique. La connaissance spéculative va naître comme une exigence de l'intelligence philosophique qui s'est éveillée dans la connaissance pratique pour aller plus loin. C'est toujours le propre de l'intelligence de pouvoir aller le plus loin dans l'ordre de la vérité. Pour essayer de découvrir une vérité qui ne soit pas liée à l'action de l'homme. Pour découvrir une vérité qui soit une vérité, comme on dira, objective. Mais comprenons bien, hein, parce que la connaissance pratique a aussi sa connaissance objective. Il ne faut pas trop le dire. Il faut dire plutôt découvrir une vérité qui ne soit pas liée à l'activité de l'homme. Une vérité qui s'impose à nous au-delà de notre activité. Donc une vérité que nous contemplons et que nous ne faisons pas. Nous la contemplons. Alors cette connaissance philosophie spéculative va commencer par la connaissance de notre univers, de la matière, puis elle va progresser dans la connaissance du vivant, et ensuite, le dernier effort de la connaissance spéculative, la découverte de ce qui est du point de vue de l'être. Donc, vous voyez, il y a une montée, et c'est pour ça que je crois qu'on peut très bien, à ce moment-là, reconnaître qu'il y a un ordre dans ce que représente ces diverses parties de la philosophie. Première partie, la philosophie pratique, qui est immédiatement ordonnée à un bien, c'est la philosophie du bien. Vous voyez, on pourrait dire ça. Il y a une philosophie du bien et il y a une philosophie de l'être. Alors, ce serait très intéressant parce que ça permettrait de réconcilier pas mal de gens. Il ne faut pas le faire à cause de ça. Hein, mais ça permettrait quand même de voir, mais oui, c'est vrai. Il y a une philosophie du bien. Et c'est très vrai que la philosophie pratique est ordonnée vers le bien. Le bien, c'est ce que vous faites. Le bien, c'est ce que vers quoi vous tendez, votre bonheur. Le bien, c'est aussi ce que nous faisons à plusieurs, le bien commun. Alors vous avez la philosophie du bien, et à partir de là, vous avez la philosophie de l'être qui va naître à partir du devenir. La philosophie du devenir, c'est la philosophie de la nature. La nature se présente à moi sous deux aspects très différents, ce qui est mu et ce qui se meut. Et alors, philosophie de la nature qui aboutit à la philosophie du vivant, et en dernier lieu, la philosophie de l'être. Voyez que la philosophie de l'être apparaît bien comme la philosophie première. Première parce que, de fait, elle va tout envelopper. C'est pour ça que c'est bon de la voir dans ce troisième moment. Donc, voir la base. La base de la philosophie, donc, est ordonnée au bien, en comprenant ces trois aspects différents du bien. Le bien humain, ou le bien de l'homme. C'est vrai, il y a deux biens, il y a le bien humain et le bien de l'homme. Le bien de l'homme, c'est l'œuvre. Et le bien humain, c'est le bonheur. Alors, il faudrait trouver une troisième terminologie, le bien humain, le bien de l'homme et le bien de la communauté. C'est le bien commun. Vous avez donc trois modalités du bien et trois modalités de la philosophie pratique. Ça, c'est la base. Il faut tout le temps revenir à cela pour ne pas perdre le sens réaliste de la philosophie et comprendre que c'est bien ordonné à l'homme. La première chose qu'on cherche, c'est le bien de l'homme, le bien humain et le bien commun. Vous avez à partir de là la philosophie qui va s'élever en devenir spéculative. Spéculative, c'est-à-dire contemplative. C'est la recherche de la vérité pour la vérité, comme on dira au point de vue scolastique. Et vous voyez, là encore, c'est très équivoque, la recherche de la vérité pour la vérité. Comme si la philosophie s'imposait au-delà de l'homme. La vérité est au-delà de l'homme. Alors, si je définis la philosophie spéculative comme la recherche de la vérité pour la vérité, j'ai toujours le danger d'oublier l'homme. Or, de fait, la philosophie spéculative est elle aussi pour l'homme, mais pas de la même manière, pas immédiatement. L'avantage de la philosophie pratique, c'est qu'elle est immédiatement ordonnée à l'homme, puisqu'elle est ordonnée vers le bien de l'homme, le bien humain, le bien commun. Donc, elle est immédiatement ordonnée vers l'homme. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de la connaissance de la philosophie spéculative, je ne peux pas dire que c'est l'homme tout de suite que je regarde. C'est l'homme lié à tout notre univers. Donc, philosophie de la nature. Et dans cette philosophie de la nature, je regarde l'homme en tant qu'il a un corps et qu'il est parti de cet univers. Philosophie du vivant. Or, le vivant parfait, c'est l'homme. Et philosophie première. Et dans la philosophie première, qui est la philosophie de ce qui est, du point de vue de l'être, c'est tout le problème de l'homme en tant qu'il est esprit. La philosophie première, ce sera la philosophie de l'esprit.
Mais faisons attention, hein, faisons attention, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la philosophie de l'esprit, on sait très bien que ce n'est pas tout à fait ça. Mais au fond, on devrait peut-être avoir cette audace de dire ça. Philosophie première, philosophie de l'esprit. Parce que c'est là où on étudie ce que c'est que l'esprit. Alors, vous comprenez que Aristote ménage à l'intérieur de la philosophie des degrés successifs. Et on voit très bien là l'analogie de l'être, l'analogie de la connaissance. Pour Platon, quand vous regardez parallèlement à Platon, je vous ai dit tout à l'heure, philosophie égale théologie égale contemplation. Une seule philosophie qui est liée à la dialectique,
vrai, la philosophie est dialectique, et la philosophie est ordonnée à la contemplation, ordonnée à la théologie.
Immédiatement. Alors, face à ce bloc tout à fait particulier de la philosophie, tel que Platon la donne, Aristote va comprendre. Non, la philosophie est pour l'homme. Premier aspect qu'on doit voir. La philosophie est pour l'homme. Mais si je veux aller jusqu'au bout de cette philosophie qui est pour l'homme, il faut accepter le dépassement de l'homme. Et l'homme est dépassé de trois manières. Il est dépassé par l'univers, il est dépassé par la vie, il est dépassé par l'être. C'est extraordinaire, les trois dépassements. C'est vrai, l'homme n'est pas source de la vie, l'homme n'est pas source de l'univers, l'homme n'est pas source de l'être. Et donc il y a un triple dépassement. Vous voyez, c'est la philosophie qui montre l'autre dans sa transcendance. Eh bien, vous avez trois transcendances. La transcendance de l'univers par rapport au corps de l'homme, la transcendance de la vie, ça me dépasse, bien qu'elle est saisie dans l'immanence, et puis l'être premier. Alors, je commence à comprendre comment la philosophie première, elle est au sommet, et d'une certaine manière, elle récapitule tout. Elle reprend tout. C'est ça qui est très extraordinaire. C'est donc cette philosophie première, dans la mesure où je la découvre, qui va me permettre de tout ordonner. C'est normal, puisque cette philosophie première va devenir une sagesse. Et dans la mesure où elle devient sagesse, elle ordonne toutes les parties de la philosophie. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Comment toutes ces parties de la philosophie sont des pierres d'attente d'une sagesse. Et la sagesse est à ce sommet philosophie spéculative, mais il y aura une retombée merveilleuse de l'aspect de la sagesse au niveau éthique. Par la sagesse philosophie première, la philosophie humaine morale deviendra elle-même sagesse. Elle ne l'est pas par elle-même. Elle est par l'intervention de la philosophie première. Et elle deviendra elle-même sagesse. Il faut toujours avoir un peu devant soi, vous voyez, c'est le propre de la philosophie, c'est ça qui est très difficile dans la philosophie. C'est que tout se tient. Alors il faut toujours avoir l'horizon derrière. L'horizon de comprendre qu'il y a de fait ces différents aspects de la philosophie qui se tiennent, mais qui sont distincts. Chaque fois, il y a quelque chose de particulier. Et ce qui est important, c'est de saisir que cette philosophie spéculative qui recherche la vérité, elle est quand même toujours ordonnée à l'homme. Elle est ordonnée à l'homme à travers la connaissance de la nature, à travers la connaissance du vivant, à travers la connaissance de l'être. Elle est toujours ordonnée à l'homme. Et c'est pour ça que le dernier moment de la philosophie première va à un moment donné s'achever en théologie. Cette théologie, c'est la sagesse. Et nous aurons ce dernier moment de la philosophie première qui s'achève en théologie et sagesse, et qui va impliquer un jugement de sagesse par rapport à l'homme, en précisant que au-delà de ce bien immédiat, il y a un bien transcendant. Et vous aurez la dernière dimension du bien qui me sera donnée par la sagesse, par la théologie. Le bien de l'homme est un bien transcendant. L'homme est capable d'atteindre ce bien transcendant qui est Dieu. Donc, quatre dimensions du bien, voyez. C'est curieux et c'est intéressant d'essayer de saisir progressivement comment toutes ces recherches philosophiques se tiennent. Et alors, dans la mesure où vous approfondissez un aspect, tous les autres se perfectionnent. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a jamais terminé de faire de la philosophie. Une fois qu'on a compris, on a mis le petit doigt dedans, on sait très bien. Parce que de la philosophie spéculative, on revient à la philosophie pratique, et de la philosophie pratique, on revient à la philosophie spéculative. Et c'est là le point de vue très important de cette recherche de la philosophie qui est ordonnée à l'homme, d'une manière pratique, immédiate, d'une manière spéculative médiate. Mais c'est toujours ordonné à l'homme. Et en définitive, la philosophie spéculative s'achevant en théologie redevient le bien immédiat de l'homme. C'est pour ça que toute la philosophie est ordonnée à l'homme. Alors, l'autre problème qui est important à saisir, c'est de comprendre comment cette philosophie va, pour le croyant, celui qui a la foi, comment cette philosophie ne s'oppose en rien à l'attitude de foi, mais au contraire peut être assumée par la foi. Ça, c'est le problème de la théologie doctrina sacra, c'est-à-dire de la théologie qui part de la foi. Vous voyez, il y a ce petit équivoque, et ça, je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Il y a ce petit équivoque, c'est que le mot théologie a d'abord été donné dans la philosophie grecque comme le dépassement de la philosophie première. Aristote ne parle pas de métaphysique, mais parle de philosophie première et de théologie. Alors, une fois qu'on a découvert un mot, vous savez bien, c'est très difficile d'en sortir. Hein? Alors, on a continué d'appeler théologie ce qui regardait, ce qui était à partir de la foi. On a usurpé ce mot philosophe, vous voyez. Il faut quand même que les philosophes revendiquent leur bien. Et la revendication du bien, c'est de voir que le mot théologie est d'abord philosophique. Ce qui explique comment aujourd'hui, il y a des retombées philosophiques en théologie. N'est-ce pas ? Que les théologiens ne sont plus vraiment des théologiens de la doctrina sacra et qu'ils louchent vers la philosophie. Alors, ils deviennent des philosophies de la religion, des philosophies de l'homme, des philosophies de la libération de l'homme, et ainsi de suite. Et ils ont oublié que leur théologie était à partir de la foi. C'est curieux, c'est intéressant de voir ce point de vue-là. C'est que, de fait, la théologie est d'abord née à partir de la philosophie. Dans notre monde occidental, dans notre culture occidentale, elle est d'abord née à partir de la philosophie. Puis ensuite, alors nous savons, le premier théologien, il ne faut pas l'oublier, c'est Philon. Et c'est un théologien de foi juive. Ce théologien est le premier qui s'est servi de la philosophie grecque pour faire une première théologie à partir de la foi, à partir de la parole de Dieu. Philon a été rejeté des Juifs et a été reçu des chrétiens. C'est très curieux. Autrement dit, il y a eu un premier amour des chrétiens, tout de suite, vous voyez, par le point de vue que Philon prenait la philosophie grecque et l'introduisait pour faire une théologie. Nous ne pouvons pas supprimer que, de fait, notre philosophie occidentale, elle est née d'abord en Grèce. C'est un fait. C'est un fait, on peut très bien ne pas être de bonne humeur là-dessus. Ça dépend. On peut très bien dire que c'est très embêtant d'avoir eu comme grand-père, d'avoir eu les Grecs. J'aurais mieux aimé avoir l'Inde. C'est possible. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Mais c'est un fait. Notre culture est née de la Grèce. Cette culture grecque n'est pas étrangère à l'Inde, grâce à Platon. Elle n'est pas étrangère non plus à toute une influence qui est une influence qui a été, au fond, sémite, grâce aux stoïciens. Il y a eu deux influences, de l'Inde et des sémites. Les stoïciens ont été influencés par les sémites. Et le point de vue de Platon a été influencé par le point de vue. Alors, Aristote, lui, est entre les deux. Il est entre les deux, puisqu'il est à la suite de Platon, il est avant les stoïciens. C'est curieux de voir ça. C'est intéressant, parce que je crois que quelqu'un qui pense vraiment et qui recherche la vérité prend son bien partout où il est. Donc, je ne peux pas dire qu'une vraie philosophie est grecque. Une vraie philosophie, elle est de l'homme. Et elle est pour l'homme. Alors, est-ce que l'homme se ramène à l'homme grec, ou à l'homme de l'Inde, ou à l'homme
ce qui est tout simplement l'homme religieux qui est sémite, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a qu'une espèce humaine. Et que la philosophie doit être la philosophie de l'homme. Alors elle prend son bien partout. Elle sait qu'elle est influencée par la Grèce. Elle sait qu'elle est influencée par l'Inde. Elle sait qu'elle est influencée. C'est très vrai, mais on retrouve toujours les mêmes problèmes. Oui. Donc il faut arriver à essayer de dépasser ces catégories, parce que ça c'est des catégories, ces catégories de lieu et de temps, pour essayer de comprendre une philosophie qui est de l'homme actuel, dans la culture d'aujourd'hui. Or, notre culture est-elle grecque aujourd'hui? Non. Elle n'est plus grecque du tout. C'est une culture à base des mathématiques. Alors, on peut dire que les mathématiques sont égyptiennes, si vous aimez bien, n'est-ce pas? Elle est à base des mathématiques, elle est à base de la culture scientifique. Donc, le tout, c'est de savoir, est-ce que cette culture est au service de l'homme? Est-ce que l'homme se ramène à la connaissance mathématique? Est-ce que l'homme se ramène à la connaissance des techniques? Est-ce que l'homme se ramène à l'efficience? C'est là tout le problème. Hein? Au-delà des discussions de savoir si c'est grec de l'Inde ou... Non, on cherche son bien partout où il est. Et si on avait suffisamment de temps, on devrait puiser aujourd'hui, aussi bien du côté de l'Inde que du côté grec, que du côté sémite. Très très beau du reste de faire ça, parce que c'est vrai, il y a une certaine philosophie pratique dans la Bible. Il y a une philosophie pratique dans la Bible. Il ne faut pas oublier, les sémites ont subi des influences multiples. Première influence, la ville d'Ur. Deuxième influence, l'Égypte. C'est pas pour rien que Moïse a été éduqué chez le pharaon. Et je ne crois pas qu'il a rejeté ce qu'il a entendu du pharaon. Il s'en est servi. Puis après, il y a eu d'autres influences. Les Perses, il y a eu la Grèce, il y a eu les Romains. Et donc, il y a eu toutes ces influences multiples. Et un vivant, premièrement, il assume plutôt que de rejeter. C'est le signe du petit vivant quand il rejette, en premier lieu. En disant, quand il boude, c'est le signe du petit vivant. Le grand vivant, il assume, il n'a pas peur de la vérité. Alors, une philosophie n'est pas liée à la Grèce, n'est pas liée à l'Inde, n'est pas liée aux sémites, elle est la recherche de l'homme. Je crois qu'il faut toujours avoir cette espèce de grande vision philosophique. Si on aime les Grecs, c'est parce qu'ils ont été plus loin dans la recherche de la finalité. C'est qu'ils ont été plus loin. C'est uniquement à cause de ça. Si vous mettiez une métaphysique qui dépasse la philosophie de l'acte, je me jeterais immédiatement dessus. Mais je ne l'ai pas encore rencontré. Je n'ai pas encore rencontré, au point de vue métaphysique, une métaphysique qui aille plus loin. Je connais très bien Olivier Lacombe. Olivier Lacombe connaît l'Inde comme très peu de philosophes la connaissent. Et Olivier Lacombe m'a dit plus d'une fois, dans l'Inde, je retrouve exactement les mêmes problèmes que la Grèce. Il y a les deux tendances, Platon, Aristote. Évidemment, ils ne se nomment pas Platon et Aristote. C'est pas, ils se nomment autrement. Mais je retrouve les deux mêmes tendances. Je retrouve une philosophie de l'être. On retrouve une métaphysique du bien. On retrouve les deux tendances. C'est ça qui est très curieux. Mais de fait, l'analyse va moins loin. Ça, on l'a dit, on l'a redit. Aujourd'hui, on le dit moins parce que c'est plus très à la mode. On a dit le miracle grec extraordinaire d'aller si loin dans l'analyse. Alors, ceci, c'est pour comprendre comment, de fait, quelqu'un comme Merleau-Ponty, quand il ponctue d'une manière astucieuse l'influence de l'Inde, l'influence de la Grèce, reconnaît que la Grèce est pour nous les fondateurs. Alors, les fondateurs, c'est très important de les découvrir, mais il ne faut pas être dépendant d'eux. On est quand même plus intelligent que nos grands-parents, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on est plus intelligent que nos grands-parents, on ne doit pas toujours se référer à eux, mais on s'y réfère quand même, puisque ce sont des gens qui ont été très intelligents, on le sait très bien. Alors, on essaie de comprendre et on essaie de saisir notre propre expérience et notre monde d'aujourd'hui. Et on essaie de découvrir dans ce monde d'aujourd'hui ces trois transcendances, la nature, le vivant et l'être, sans oublier la philosophie pratique. Donc vous voyez, je crois que c'est très important de saisir que la philosophie comme telle
n'est pas lié à une culture. Aristote lui-même fait toujours la distinction entre la culture et la philosophie. La culture conditionne, c'est vrai, on est terriblement conditionné par une culture. Et elle conditionne énormément la philosophie pratique. Elle conditionne beaucoup moins la philosophie spéculative. La philosophie spéculative, si elle est vraie, est beaucoup moins conditionnée par une culture. C'est pour ça que c'est très important de saisir ces deux grands aspects de la philosophie. Philosophie pratique, philosophie spéculative. La philosophie pratique est très conditionnée par la culture dans laquelle on est. Pas nier qu'on est très conditionné par le point de vue dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire la culture qui devient une culture scientifique et technique. C'est un fait, on ne peut pas effacer ça. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, ce n'est pas la peine. Il faut, à travers cette culture, sauver l'homme. Ça, c'est autre chose. Il faut, à travers cette culture, sauver l'homme. Il faut, à travers cette culture, comprendre ce qu'il y a de bon dans cette culture. La science en soi est bonne. C'est un bien de l'homme, mais en même temps saisir ce qu'il y a de limité. Et constamment revenir à cela. Qu'est-ce que ça représente, cette culture dans laquelle on est? Cette culture artistique, cette culture technique, cette culture scientifique, qu'est-ce que ça correspond par rapport à ce que correspond le bien de l'homme? Vous voyez, les trois. Le conditionnement. Il est évident que la culture conditionne en premier lieu le bien commun, parce qu'elle conditionne l'œuvre de l'homme, et elle conditionne moins le bonheur. Mais elle conditionne les deux, ça c'est sûr. Une culture, quand vous essayez, faites une fois une petite analyse de ça, c'est intéressant, et c'est, on doit le faire. On doit le faire, on doit essayer de comprendre ça. Essayer de faire un petit inventaire de la culture d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça correspond, la culture d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? La culture d'un pays, parce que là, il y a des variantes aussi. Il est évidemment que la culture de l'Afrique n'est pas tout à fait la même que la culture de l'Europe. Et dans l'Europe, la culture de l'Allemagne ou la culture de la France n'est pas tout à fait la même. Et la culture de l'Angleterre non plus. Il y a des aspects différents. Et de l'Amérique non plus. Il y a des aspects différents. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est. C'est pas si commode que ça à analyser. Et c'est très intéressant d'avoir cette information pour comprendre ce que représente une culture dans laquelle, de fait, nous faisons notre réflexion philosophique. Je ne peux pas m'abstraire de cette culture. Je ne peux pas. Impossible. Mais je dois dépasser cette culture, puisque je dois retourner à la source. Alors là, n'oubliez jamais la grande définition de Peggy de ce que représente la philosophie. Si Peggy vivait aujourd'hui, je crois qu'il le dirait encore plus. Il verrait comment la plupart des hommes sont dépendants de la culture dans laquelle ils sont. Alors à ce moment-là, ils n'assument pas la culture, ils en sont dépendants. Alors vous avez la spiritualité de la planche. C'est ceux qui dépendent de leur culture. Tout le monde fait cela, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas la finalité, c'est la constatation. On fait des lois en fonction de la constatation des faits. Là, on descend le fleuve, on fait la planche. Ce sont des lois planches, vous voyez, c'est des lois qui sont en dépendance de la culture dans laquelle on est. Alors, on fait une constatation, on fait un constat, c'est tout. Je vois exactement ce qui s'est passé, voilà ce que c'est. Pour un accident, c'est très bien de faire un constat. Il faut bien ça, on constate exactement ce qui en est. Mais ça, c'est la culture. Je peux tâter le pouls de la culture. Qu'est-ce qui actuellement plaît? Qu'est-ce qui actuellement déplaît? Qu'est-ce qu'il faut dire pour avoir du succès? Qu'est-ce qu'il faut dire pour que, de fait, on ait un écho? Mais ça, c'est de l'ordre de la culture. Vous voyez, la rhétorique joue un très grand rôle là-dedans. Hein? La rhétorique jouait un très grand rôle pour Platon et pour Aristote. Et pour les sophistes, n'en parlons pas.
Alors, notre monde d'aujourd'hui, c'est un monde de sophistes. C'est vrai, il faut reconnaître. La culture d'aujourd'hui, la plupart du temps, c'est ce point de vue-là. Mais attention, si je constate la culture, si je vois ce que représente cette culture, et que j'essaie, à partir de là, de redécouvrir ce que c'est que l'homme en plénitude, ça c'est très bien. Il faut connaître ce milieu dans lequel je suis. Le milieu immédiat, le milieu plus vaste. Il faut le connaître. Il faut voir les influences différentes qui forment ce milieu dans lequel je suis. Et là, toutes les connaissances que nous avons, les différentes revues que nous voyons, qui nous donnent un peu l'écho, sont importantes à saisir pour voir dans cette culture des zones différentes. Saisir des zones différentes. Et c'est ça, je crois, le propre de cette coupe que nous devrions faire au plan philosophique. Parce que c'est important, au plan philosophique, de faire cette coupe. Qu'est-ce que représente exactement la culture d'aujourd'hui ? Une coupe de ce milieu dans lequel on est. Pour voir, à partir de là, qu'est-ce qui, de fait, dans cette culture, risque de mutiler l'homme. Comment dépasser cette culture ? Pour retrouver la source. Ça, c'est le rôle du philosophe. Il doit comprendre qu'il est dépendant de cette culture, il est conditionné par cette culture, mais il n'est pas déterminé par cette culture. Il est capable de la dépasser, il est capable de l'assumer. Pourquoi ? Parce qu'il y a en lui quelque chose qui est une source de vie. Alors, quand il a découvert qu'il avait une âme immortel, quand il avait découvert qu'il a une âme spirituelle, à ce moment-là, il comprend bien que sa finalité est au-delà de la culture, mais que cette culture est importante à saisir. Tout le problème de l'éducation, c'est de comprendre le dépassement de la culture, de prendre les gens là où ils sont, dans l'état dans lequel ils se trouvent, pour essayer de faire surgir quelque chose qui va plus loin. Mais pour faire surgir quelque chose qui va plus loin, c'est le propre de la philosophie. Redécouvrir la source. Connais-toi toi-même. Mais nous retrouvons le mot d'ordre de Delphes, l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Se connaître soi-même, c'est connaître sa finalité. C'est découvrir qu'il y a dans l'homme quelque chose qui est au-delà de la culture. Puisque la culture provient de l'homme, l'homme ne doit pas être dépendant de la culture. L'homme doit en tenir compte, mais l'homme doit dépasser cela pour redécouvrir ce qu'il y a de plus fondamental en lui. Vous voyez ? Et c'est ça le but de la philosophie. Alors il faudrait constamment, vous voyez, constamment, on ne peut pas le faire tout le temps, et c'est surtout par rapport à la philosophie humaine. On devrait constamment comprendre ce bain dans lequel on est. Quand vous êtes au niveau de la philosophie première, vous avez déjà dépassé un tout petit peu, hein. Mais évidemment, on prend de temps en temps des tasses et on retombe dedans, n'est-ce pas ? Mais au fond, vous avez dépassé un tout petit peu quand vous êtes vraiment. Parce que là, la culture au niveau de la philosophie première, c'est pas très commode à saisir. Hein. La philosophie première, si elle est une vraie philosophie première, elle est merde. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui cherche la vérité. C'est l'esprit qui cherche. Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Et chaque fois qu'on se pose la question, chaque fois qu'on entre en philosophie première, on doit découvrir plus profondément ce que c'est que l'esprit. Et ça, je crois que c'est très très important, vous voyez, de comprendre que cette philosophie première, c'est la philosophie de l'esprit. Et donc, chaque fois que j'avance un peu, mais évidemment, je suis très loin, ça il faut le reconnaître, je suis très loin d'une certaine culture qui est la nôtre, quand je suis en philosophie première. Mais il ne faut pas, parce que je suis loin, dédaigner. Je sais que cette philosophie première est très proche de la philosophie morale. Elle est très proche. Les deux se tiennent constamment. Je ne peux pas vraiment faire une philosophie première sans voir tout de suite la répercussion au niveau de philosophie morale, la philosophie du bonheur. Et dès que je suis au niveau de la philosophie du bonheur, par le point de vue de la philosophie de l'homme et de la philosophie de la communauté, je replonge dans le point de vue de la culture.